Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'Emploi sur BAC FM 106.1. Donc cette émission est proposée par la Fabrique Emploi et Territoire. Je suis aujourd'hui entourée de trois personnes et une au téléphone. Donc je suis entourée de Clara Zorzetto.
Bonjour.
De Clément Cotillard.
Bonjour.
Et de Sébastien Guirand.
Bonjour.
Et d'un certain Antoine Charrière au téléphone.
Bonjour, bonjour.
Antoine. Tu reviens un peu à l'antenne de BAC FM après quelques mois, voire années d'absence, Antoine.
Eh oui, à distance.
À distance. Donc, cette émission va être organisée en deux temps. Une première partie avec Clara et Antoine où on se demandera avec vous comment vous avez eu cette idée du parcours de journaliste, du parcours de formation pour devenir journaliste. Sachant que Clara, toi, tu as terminé, Antoine est en cours. Mm-hmm. Et ensuite, nous allons parler avec Clément Cotillard dans le cadre d'une nouvelle rubrique qui s'appelle « Les assos prennent le micro ». Et là, c'est Seb qui sera à la manœuvre.
Absolument.
Donc, avant de laisser le micro à Sébastien et Clément, je disais, nous allons parler du métier de journalisme. Donc, Clara, toi, comment tu as eu cette envie, cette idée de te former au journalisme et d'y travailler ?
Alors, moi, ça a été un peu au dernier moment où j'ai voulu être journaliste, parce que pendant que j'étais assez petite, j'ai beaucoup saoulé mes parents pendant bien une dizaine d'années en disant « je vais être avocate, je vais faire du droit, ça va être mon truc ». Donc mes parents, très bien, bah, fais comme tu veux, voilà. Et en fait, arrivée en terminale, j'ai pris une option justement pour me rapprocher du droit, pour avoir déjà une première approche, en me disant l'année prochaine j'irai en fac de droit et tout se passera bien. Sauf qu'en fait, grande désillusion, le droit c'est pas fait pour moi du tout. Le rabâchement, vraiment, apprendre par cœur, vraiment une angoisse. Et donc je me suis dit, il faut trouver un plan B, faut ensuite, faut que j'ai Parcoursup, quoi, faut que je remplisse des vœux, faut que je fasse des choses, enfin bref, dépêche-toi ma grande, cela c'est le moment, quoi. Et en fait, je me suis souvenue d'un projet que j'avais beaucoup apprécié, vraiment beaucoup, beaucoup, quand j'étais en troisième. Donc moi, j'étais dans un collège et lycée privé, donc Cato. Et on avait l'option, enfin, on avait la possibilité plutôt de faire des cours de catéchisme. Mm-hmm. Même si c'était pas vraiment des cours à proprement parler, enfin, c'est juste on débattait, on parlait. Mm-hmm. Et en troisième, j'ai eu la possibilité d'écrire un magazine qui s'est appelé par la suite... le magazine des bonnes nouvelles ou un truc comme ça. Mmh. Et on parlait que de bonnes nouvelles. Donc, on était quatre jeunes à faire le projet avec une jeune journaliste diplômée et sa maman, en fait, qui nous encadrait. Et au final, en fait, le magazine, c'était vraiment une super chouette expérience. Mmh. Parce que les fonds, en fait, après, ont servi à réaliser le rêve d'enfant dont le pronostic vital est engagé.
D'accord.
Donc vraiment, premier pied à l'étrier en me disant, c'est ça que je veux faire. Et par la suite, après, j'ai entamé des démarches pour trouver la bonne école et me professionnaliser, tout simplement.
Donc ça, c'est le journal du collège a fait déclic.
C'est ça.
Et donc, c'était des articles. Hein. Vous écriviez, en fait, sur des sujets.
On avait rencontré des gens, je me souviens, on était allé dans un hôpital gériatrique, on avait organisé la journée du Pueblo Sourire, ensuite on avait réécrit des articles là-dessus.
Ah, c'est chouette.
On avait fait des interviews, on avait fait vraiment comme un vrai magazine, mais juste comme on était en troisième au collège, ça avait vraiment vraiment un magazine plutôt scolaire, mais ouais, non, c'était vraiment un vrai magazine, on l'avait imprimé, on avait fait plein d'exemplaires. Donc,
ok,
voilà.
Bah, c'est super. Et du coup, toi, après, tu t'es dit, donc le journalisme, pourquoi pas?
Ouais, tout à fait.
Et donc tu as passé le bac?
C'est ça.
Et après, donc, tu es allée te former.
C'est ça. J'ai fait une école donc, qui s'appelle l'ISCPA. Moi, j'étais sur le campus qui était à Lyon, parce que de base, je suis lyonnaise. Mm-hmm. Sachant que l'école, elle a trois campus en France. Il y en a un à Paris et un autre à Toulouse. Et en fait, là, du coup, en trois ans, je me suis formée presse écrite, télé, radio, web, podcast, ouais. Tout.
Tu peux tout faire.
C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est de base, on est formé. Enfin, dans l'école où j'étais, l'idée, c'était de nous former à vraiment pouvoir faire. Enfin, dire le matin, vous êtes en conférence de rédaction. Mmh. On vous donne un sujet sous n'importe quel format. Vous partez la journée faire votre reportage et vous revenez le soir. Soit vous écrivez, soit vous montez. Mais le soir, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit potentiellement du coup publiable ou diffusable.
Ouais, voilà. Ok. Et là, donc, tu es journaliste à Bac FM.
Tout à fait.
Et tu fais quoi? Tu t'occupes de quelle rubrique? Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, alors, des rubriques ou des thématiques.
Ouais, alors à Bac FM, moi, c'est principalement celle qui est diffusée à 13h, qui s'appelle C'est dans les parages, où on parle de l'actu du coin, de ce qui se passe. En ce moment, c'est surtout culturel. Et puis là, au mois d'octobre, ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout deux gros événements, donc Octobre Rose, donc avec la sensibilisation et le dépistage au cancer du sein, et il y a aussi le mois de l'inclusion qui se passe là à Nevers, où l'idée c'est de créer du lien entre les gens, rapprocher les personnes.
Donc tu vas interviewer, c'est ça, des gens qui participent,
des acteurs et des actrices qui s'occupent du coup de ces deux grands événements du mois d'octobre principalement.
Donc tu t'occupes de l'interview de A à Z, t'écris les questions, tu vas les voir. Tu montes, non? Ou Laetitia aide à monter, peut-être?
Ouais. Non, moi, je monte pas, mais oui, c'est, on me donne les sujets, je fais des recherches sur ces sujets, parce qu'évidemment, à la radio, même sur n'importe quel média, il faut d'abord se renseigner avant de rencontrer les personnes. Donc, on fait quelques recherches, on écrit des questions, on essaye de trouver comme un bon déroulé à l'émission, parce qu'on ne veut pas partir d'un point A, puis arriver après au point D, puis après revenir au point B, ça n'a pas de sens. Donc, trouver une bonne trame. Et puis après, interviewer les personnes, les mettre en confiance, parce que parfois, il y en a qui sont un peu intimidés quand c'est la radio, surtout de s'entendre. Mais l'idée, c'est quand même de faire des interviews ici.
Et toi, tu as des sujets de prédilection pour la suite de ta carrière? Tu aurais envie de travailler dans une thématique particulière ou dans un média particulier?
Ou pas forcément. Juste pour l'instant, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est fait divers. Ouais. Mais ça viendra peut-être avec le temps. Mais un peu tout. Moi, justement, ce que j'aime bien avec ce métier, c'est qu'on peut parler de tout. On n'est pas bloqué. On peut partir d'un jour, partir sur un sujet, et le lendemain arriver, et en disant « Eh ben non, t'as autre chose à faire, t'as ça aussi. » Et c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui est super chouette avec ce métier, c'est que chaque jour, c'est des choses différentes à faire, même si effectivement, la méthodologie derrière et forme, c'est la même chose. Mais le fond, c'est à chaque fois différent. Donc, c'est chouette.
Faut aimer un peu improviser, du coup.
Généralement, on est toujours bien préparé. Effectivement, faut pouvoir surtout rebondir sur ce que les personnes disent. Effectivement, quand il y a des personnes qui m'ont abordé, on aura pensé à certaines questions. Mais au fur et à mesure de la discussion avec la personne, il y a d'autres questions qui vont venir. Et donc, effectivement, rebondir à ce moment-là. Mais c'est surtout beaucoup de préparation, en fait, le journalisme.
Donc toi, Antoine, t'es Nivernais. Tu as été à Raoul Folreau pour tes années de lycée. Et mon petit doigt me dit que tu as fait de la radio à Bac FM. Vous avez ce point commun avec Clara. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a donné, alors au-delà du micro de Bac FM, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou l'idée de faire du journalisme, ou en tout cas de te former dans le journalisme?
Alors moi, pour le coup, le projet s'est concrétisé un peu plus tard, vers le lycée. Mais en fait, j'ai déjà cette envie depuis la primaire, je pense, parce que j'ai toujours un peu créé des choses de manière générale, dont des journaux qu'on distribue dans la cour, c'est des feuilles A4 pliées, en primaire à l'école. Et en grandissant, j'ai appris que agent secret et testeur de jeux vidéo, c'était pas des métiers, donc il fallait trouver autre chose.
Si c'est des métiers, il y a peut-être moins de débouchés, effectivement.
C'est ça, plus restreint, on va dire. Et pareil, les métiers un peu créatifs, c'est ce que j'aimais beaucoup. C'était aussi très très limité. Et dans le journalisme, je retrouvais ce côté créatif et multidimensionnel, parce que il y a de la radio, il y a de la presse écrite, il y a de la télé, et encore plein d'autres formats qui se développent. Et qui, pour le coup, est un métier un peu plus concret et reconnu. Et donc, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Donc, c'est ça qui m'a attiré en premier. Et puis ensuite, au lycée, c'est tout l'aspect politique et le métier en lui-même qui m'a intéressé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands médias qui sont détenus par des milliardaires. Il y a toute une question d'éthique, de morale. Enfin bref, je ne vais pas développer la question plus loin. Mais voilà, il y a tout plein de questions qui animent le métier de journaliste aujourd'hui, qui fait que ça m'intéressait d'aller creuser là-dedans et puis de moi aussi participer à cette grande aventure de l'information.
Et donc cette année, tu es où ?
Je suis à Lille. Alors je suis en deuxième année de licence de sciences politiques et je suis dans une filière qui s'appelle l'Académie ESJ. L'ESJ, c'est l'école supérieure de journalisme à Lille. À ne pas confondre avec l'ESJ de Paris, qui pour le coup n'a rien à voir et qui est détenue par Vincent Bolloré et Bernard Arnault.
C'est ça.
Là, l'ESJ de Lille, c'est indépendant.
Oui.
Et alors, pour le coup, normalement, pour y entrer, c'est en master.
Oui.
Mais moi, je suis dans une filière qui permet d'être une sorte de prépa, on va dire, pendant la licence. Et en fait, on a des cours à l'ESJ qui remplacent les mineurs de l'université. Et alors, en première année, on faisait beaucoup de cours magistraux classiques. Il y avait quelques TD quand même en petits groupes, mais il n'y avait pas beaucoup de pratiques, on va dire. Et là, en deuxième année, on fait beaucoup plus de pratiques avec de la radio, du site web, ce genre de choses, et toujours des cours magistraux. Mmh. Et on parle de l'actualité, justement aussi de qui détient quoi dans les médias, de l'histoire du journalisme. On parle aussi anglais, du coup.
Okay.
Et ça me plaît bien.
Ouais, d'accord. Et pour la suite, alors, tu dois passer le concours de l'ESJ. Qu'est-ce que tu as envie de faire bien plus tard ?
Bah oui, sûrement. Enfin, en plus, c'est ce qui m'a attiré dans le métier, justement, à la base. Ce que je disais, c'est que comme c'est un métier plus reconnu, etc., même si les places sont limitées, un diplôme, c'est toujours pas mal pour trouver du boulot. Donc, l'ESJ ou autre chose, de toute façon, en troisième année, là, à l'académie, du coup, on va, pour le coup, c'est une vraie prépa qui nous prépare au concours d'école de journalisme de manière générale. Mm-hmm. Donc, l'ESJ ou un autre, ce serait pas mal. Et ensuite, j'aimerais bien travailler. Bah, moi, la radio, du coup, Bac FM m'avait beaucoup initié à ça. J'avais beaucoup aimé la radio. Et cette année, je continue et c'est toujours autant un plaisir. Mais j'aime beaucoup la presse écrite aussi. J'avais fait un stage au Journal du Centre à Nevers, donc justement. Ça m'avait bien plu. La télé, pourquoi pas. Enfin, après la suite, j'avoue que j'irai là où le vent me mène. Même si, okay, bon, faudra bien un peu provoquer le vent, mais.
Mmh. Et aujourd'hui, Antoine, tu fais un peu de journalisme de façon amateur, j'ai envie de dire, ou pas spécialement ?
Ah bah oui. Bah comme au lycée, j'étais déjà dans le journal étudiant et puis à Bac FM. Et là, depuis l'année dernière, pareil, je continue à développer des médias avec des amis. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Tour d'Horizon sur YouTube, dans lequel il y a 8 chroniques avec 8 chroniqueurs. Moi, je suis dans la partie culture. Je participe aussi à plusieurs médias étudiants qui sont sur Instagram souvent. Il y a le Ciné ESJ qui sont les critiques d'étudiants de l'ESJ en termes de cinéma. Il y a Mégaphone aussi, qui est un média un peu engagé qu'on développe depuis cette année. Enfin voilà, plein de petits trucs qui se développent à droite à gauche, plein de petits projets qui, en plus, c'est l'ESJ nous encourage à faire ça, puisque du coup on rencontre plein de personnes qui, comme nous, veulent développer des projets et des médias. Donc si on s'entend bien avec ces personnes là ça devient facile de monter un projet, et puis ensuite c'est parti, quoi.
Et est-ce que le journalisme peut mener jusqu'à une scène type stand-up ou pas?
Ah bah pourquoi pas. Finalement, aujourd'hui, il y a plein le journalisme. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est assez multiple. Il y a des journalistes qui font du documentaire, quand d'autres font des reportages, ou sont en plateau, ou sont présentateurs. Donc, journaliste humoriste, ça existe déjà un peu avec Rhinocéros sur Blast ou certains chroniqueurs sur France Inter qui, je sais pas,
sur Nova maintenant, officiel. Un peu Nova aussi.
Tout à fait. Mais donc oui, l'un peut mener à l'autre et inversement, et l'un n'empêche pas l'autre, donc
Bon,
j'espère que le journaliste arrivera à se développer dans ce sens-là aussi, et puis pour moi aussi.
Mettre un peu d'humour dans ce monde parfois un peu sombre.
Oh oui.
Eh bien, merci beaucoup Clara, merci Antoine. On voit que voilà, il y a plusieurs voies pour accéder au métier de journaliste, et puis plusieurs déclics parfois qui se font soit autour d'un micro, soit autour d'un journal, comme ça a été le cas pour toi Clara. En tout cas, merci d'être venue au micro de Bac FM un peu au pied levé.
Bah, avec plaisir. De toute façon, moi j'étais pas loin, donc.
Oui, t'étais pas loin. Merci Antoine, hein, toi aussi, un peu d'avoir répondu au pied levé à notre invitation. Et puis sur tous ces métiers du journalisme, parce qu'on n'en a cité que quelques-uns, mais c'est vrai que le journalisme, comme vous l'avez dit tous les deux, est un peu divers et multiple. Bah, s'il y a besoin, peuvent vous contacter. Clara, elle est contactable à Bac FM. Et Antoine, on l'a vu via Instagram sur pas mal de comptes, que ce soit que des podcasts ou autres. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous propose de faire une pause dans notre émission Avenir Mode d'Emploi avec Chumba Wamba.
Très bien.
Top Thumping.
Ouais, super.
It's a
Eh bien, de retour au micro d'Avenir Mode d'Emploi, sur 106.1, je propose à Sébastien de prendre la suite et de recevoir notre invité dans la nouvelle rubrique « Les assos prennent le micro ».
Bien, je reçois Clément Cotillard dans cette rubrique « Les assos prennent le micro », une rubrique du DLA. Le DLA, ça vous parle ?
Non,
un petit peu. Non, pas trop, Clara.
Pas beaucoup,
le DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les structures associatives employeuses et qui permet de les aider dans leurs projets divers et variés. L'objectif étant de consolider l'emploi. Et dans ce cadre-là, je reçois Clément Cotillard qui coordonne un GEIQ, G-E-I-Q. Un GEIQ, le GEIQ Entraide 58. Alors pour commencer, je vous propose un petit quiz.
Oui.
Un petit quiz, j'adore les quiz, quiz sur les GEIQ.
D'accord.
Donc GEIQ, G-E-I-Q.
Oui.
Mais qu'est-ce que ça veut donc dire ?
On ne sait pas.
Ah, je vous fais plusieurs propositions.
Ça nous aide.
Grand espoir pour les indignés quadrilingues.
C'est pas mal.
Antoine, ouais,
ça pourrait, bien sûr.
Possible.
Groupement d'employeurs par l'insertion et la qualification ou groupement des enseignants incorruptibles du Québec. C'est tellement bien le Québec.
C'est tellement vrai.
Ah, tellement vrai. Bon, Clara, peut-être tu as une idée ?
Ouais, à tout hasard, je dirais la réponse 2.
Ouais, alors est-ce que le maître Founias de Bac FM, Clément Cotillard, peut nous dire ?
Je valide la réponse de Clara.
Très bien, ouais, on est bon, bravo, super.
Tu l'avais, Antoine ?
Ah, moi, j'étais parti sur le Québec.
Ah, j'étais parti sur le Québec. Avec l'accent québécois, Antoine, tu peux la faire, s'il te plaît ?
Oui, petite poutine.
ouais, très bien, super, ça marche. Super, deuxième question. Parmi ces professions, laquelle concerne le GEIQ Entraide 58 ? Aide à domicile, moniteur éducateur, aide-soignant, moniteur d'auto-école. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ?
Exactement.
Moi, je dirais aide à domicile.
Ouais, on est bon. Clara ?
Moniteur éducateur.
Ouais. Antoine ?
Bah, j'allais dire ces deux-là, donc peut-être c'est les deux.
Ouais. Les deux, on
les
est
deux,
bon ?
Même les trois.
Les trois, aide-soignant, ouais, et pas moniteur d'auto-école.
Non.
Ouais, non, on va y revenir. Et enfin, dernière petite question de notre quiz du DLA. Les GEIQ accompagnent les gens de 7 à 77 ans, vrai ou faux ?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Il y a un piège.
C'est pas comme Tintin. Ah non.
Bah, j'aimerais beaucoup accompagner des enfants de 7 ans qui auraient la vocation de travailler dans l'aide à la personne ou l'accompagnement.
Ouais. Cependant, ça
fait chaud. Ouais, faut les laisser finir leur scolarité. Non, mais en effet, à partir du moment où la personne est majeure, donc on peut dire même de 18 à 77 ans.
18 à 77 ans.
Mm-hmm.
D'accord, ok. Un projet professionnel à 77 ans.
Exactement.
Quelqu'un qui aurait
pour projet une reconversion professionnelle. Alors évidemment, ça peut être un peu sur le tard, 77 ans. Cependant, on accompagne des gens qui ont une petite cinquantaine d'années à ce jour et qui sont dans un souhait de reconversion professionnelle et pour lequel c'est pas du tout un problème, au contraire.
Okay, ça marche. Bon, très bien. Bah, merci d'avoir participé à ce petit quiz.
C'était
super sympa. Ouais. on va parler un peu GEIQ, on va parler un peu avec Clément Cotillard. Alors, je vais faire un peu une référence de vieux, une vieille référence cinématographique d'un film des années 90. Bon, la Cité de la Peur, pour pas le citer, il y a un moment dans le film où on dit Karamazov, aucun lien. Tu t'appelles Clément Cotillard. Je te pose cette question. Cotillard, aucun lien, évidemment.
Non. J'aimerais beaucoup, mais je crois pas. En tout cas, il n'y a rien d'authentifié à ce jour. Mais...
D'accord, ok. Donc on va parler de Clément et pas de Marion, du coup. Hein.
Cependant, ça, c'est hyper intéressant. Lorsqu'au téléphone, je dois l'appeler. En tout cas, je dis souvent comme l'actrice, comme Marion. Comme ça, très souvent, ça parle aux gens.
Et oui, mais je crois que même qu'elle, quand elle est au téléphone, elle dit « Je m'appelle Cotillard comme Clément ».
Exactement.
Absolument. Ouais, carrément. Carrément. Donc, tu travailles donc dans un GEIQ. On reviendra après sur ce qu'est un GEIQ plus précisément. Hein, mais est-ce que tu peux me dire comme ça, de façon très succincte, ce qu'est un GEIQ ?
Un GEIQ, c'est un dispositif qui va faciliter la mise en relation entre des personnes qui seraient éloignées de l'emploi ou en tout cas avec l'idée de pouvoir se former sur les métiers de l'accompagnement, qui n'auraient pas tous les renseignements et qui souhaiteraient pouvoir être mis en relation avec des structures qui auraient des besoins sur le secteur. Là, pour le coup, de l'accompagnement de la personne ou même du médico-social, en tout cas.
D'accord. Donc, un GEIQ, c'est un peu un outil.
Exactement.
Pour à la fois des demandeurs,
Tout à fait.
Et à la fois des structures.
Exactement. C'est-à-dire qu'à ce jour, on le déploie depuis le mois de juin. En tout cas, j'ai pris mes fonctions au mois de juin de cette année. Et il y a une grosse partie qui est sur le déploiement du réseau. C'est-à-dire qu'il faut aussi se faire connaître auprès des associations. La Nièvre est vaste et toutes les petites villes sont un peu enclavées. Donc, il me faut me laisser le temps avec mon automobile de faire le tour de la Nièvre et de faire connaître et reconnaître en tout cas l'association Entraide 58 et le GEC qui s'y attache. Mais à ce jour, l'idée, c'est de pouvoir faire entrer en parcours des personnes souhaitant se former sur les métiers de l'accompagnement. Alors, c'est la particularité de notre GEC Entraide 58, c'est qu'on est l'un des rares GEC en France à porter en tout cas ce double secteur d'activité qui est le médico-social avec les formations accompagnants éducatifs et social et moniteurs éducateurs, mais aussi le versant un peu plus aussi soins, donc aide-soignant, titre professionnel, assistant de vie aux familles, okay, et aussi d'autres diplômes. Mais voilà, en tout cas, on se consacre sur cela pour le moment, au regard du temps que j'ai, mais voilà.
D'accord, ok. Des GEC, il y en a d'autres, des GEC ? Parce que là, on nomme le GEC Entraide 58, mais si on le nomme comme ça, c'est que certainement, il y en a d'autres.
Exactement.
Des GEC, et du coup, il y en a d'autres dans la Nièvre, alors.
Il en existe partout en France. On était à l'Assemblée Générale de la Fédération Française des GEC avec nos collaborateurs la semaine dernière.
Vous avez fait un quiz ?
On n'a pas eu la chance de t'avoir, okay, sinon je pense qu'on en aurait fait un. Mais
je viendrai l'année prochaine.
Il y a près de 210 GEC en France sur tout secteur d'activité. Okay. Et à ce jour, dans la Nièvre, il y en a 5 qui sont en tout cas portés par évidemment d'autres associations. Mais il y a un GEC sur le transport, un transport sanitaire, transport de voyageurs, transport de marchandises.
Ouais, dans la Nièvre ?
Exactement, okay, tout à fait. Il y a le GEC Viti qui est à cheval sur la Nièvre et le Cher qui est sur tout ce qui est métier du
de
vin.
La vigne et du vin.
Exactement. Ouais. Il y a le GEC Salsa, sport, animation, loisirs qui est aussi porté par mon responsable et un nouveau coordinateur bientôt et qui est sur tout ce qui est métier du sport et de l'animation.
D'accord, donc là c'est un GEC qui porte un GEC en fait, c'est ça ?
Non, le GEC Salsa, il a juste la même direction commune avec moi.
Ah d'accord, voilà, ok, très bien. Ça.
Monsieur Danjou Benoît, pour ne pas le citer. Et un GEC sur le BTP également, mais qui a une antenne dans la Nièvre et qui est basée à Dijon. Et je crois que j'ai fait le tour des 5 GEC actuellement sur la Nièvre. Et moi je suis le dernier né, voilà.
D'accord, ok. Donc la particularité du GEC Entraide 58, c'est de travailler du coup sur ces métiers du soin, voilà.
C'est-à-dire...
Est-ce que ça va au-delà du soin ? C'est aussi parce que quand on dit soin, on pense souvent au métier du infirmier, etc. Médical en tout
médical,
cas.
Médical, ouais.
Est-ce que ça reprend aussi les métiers du médico-social, et pourquoi pas même du social, l'éducation spécialisée, etc.
Tout à fait. Alors en fait, on a lorsque je suis arrivé, les choses étaient déjà établies parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une étude de faisabilité qui a été faite à une époque dont la Fabrique Emploi et Territoire a été facilitateur. Mais en fait, on a décidé de se concentrer sur déjà des métiers qui étaient dispensés dans la Nièvre. C'est-à-dire qu'à ce jour, on travaille avec l'Institut National de Formation pour Adultes, donc l'INFA à Nevers, qui propose le diplôme AES et moniteur éducateur, ce qui est amené à se développer aussi pour la suite, éventuellement pour aussi, j'allais dire, les diplômes d'éducateur spécialisé, mais pour lequel il faut partir en dehors de Nevers. Mais en effet, le GEC Entraide 58, à ce jour, il est là pour faciliter la mise en relation, ce que je disais tout à l'heure, d'une structure, une association qui rencontrerait des difficultés de recrutement sur son territoire, de par le fait parce que peut-être la structure est un peu petite, pas forcément des ressources humaines efficientes pour aller dénicher des nouveaux talents. Et nous, de par le fait qu'on est quelqu'un de détaché, donc moi, je peux m'occuper d'aller faire les salons, les forums, et d'échanger avec des gens, et d'échanger avec les prescripteurs que peuvent être Pôle emploi, ou enfin France Travail, pardon.
Alors, on peut préciser ce que c'est un prescripteur, parce que
un prescripteur,
on pense à prescription, on pense au médecin, et là, ça n'a rien à voir.
Pour le coup, c'est aucun médecin qui m'envoie les gens.
Ouais. Donc le prescripteur, c'est quelqu'un qui t'envoie des gens.
C'est ça, tout à fait. Quelqu'un qui pourrait m'orienter une personne demandeuse d'emploi, en tout cas, qui répondrait aux critères, nous, d'accompagnement.
Et c'est quoi ces critères ? Alors, les critères d'accompagnement ?
Les critères d'accompagnement, soit il faut être éloigné de l'emploi, ou en tout cas demandeur d'emploi depuis un certain temps,
okay,
ou après également des gens en reconversion professionnelle,
okay,
qui cherchent à être aiguillés dans les métiers de l'accompagnement, parce que très souvent, France Travail peut, j'allais dire, balayer un peu succinctement les métiers qui peuvent leur être proposés suite à, voilà, à des, j'allais dire, des évaluations ou des entretiens. Et en tout cas, moi, j'essaye de pouvoir aussi apporter et d'éclairer les gens sur la réalité du métier. Moi, je suis moi-même ancien moniteur éducateur et je suis issu du médico-social depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, ce que j'aime, c'est partager aussi le quotidien de ce que peut être un professionnel sur le terrain, de le communiquer, mais aussi que les personnes puissent faire, j'allais dire, un choix éclairé quand il s'agit de prendre une décision d'orientation, si c'est des gens qui sont en reconversion ou des gens qui souhaitent se former. Et c'est de pouvoir les aiguiller au mieux, puis de les faire matcher, entre guillemets, avec une association qui géographiquement correspondraient à leur lieu d'habitation. Et très souvent, la rencontre se crée. On a, voilà, depuis le mois de juin, déjà quasiment 11 personnes en parcours.
Soit, en tout cas
en ce moment, AES, donc accompagnant éducatif et social, et le titre professionnel assistant de vie aux familles, donc, qui est plutôt le diplôme qui permet d'exercer ensuite à domicile, hein, ce qu'on appelle auxiliaire de vie à domicile, ou enfin, okay. il y a plein de dénominations différentes. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être cet outil qui va pouvoir mettre en relation et aussi pouvoir permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi d'être dans un emploi au long cours et surtout d'aller chercher la qualification. Hein. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a pas mal de postes qui peuvent être à pourvoir sans diplôme. En tout cas, on propose de former un peu plus tard. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir tout de suite proposer une entrée en formation parce qu'il est important, à mon sens, de pouvoir aussi proposer des professionnels dans les établissements ou que ce soit à domicile, des professionnels qui soient formés. Parce que les métiers de l'accompagnement, c'est ce que je dis souvent aux gens que je reçois, leur premier outil de travail, c'est eux. C'est leur savoir-faire, c'est leur savoir-être. Et derrière, on vient juste un peu abonder avec un peu de théorie puis un peu de pratique. Mais voilà, généralement...
Très bien. Tu parlais tout à l'heure de prescripteurs. Les gens peuvent aussi te solliciter d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un conseiller Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, ou de la mission locale. Voilà, là, quelqu'un entend, se dit, mais moi, en fait, j'ai envie de travailler dans les métiers du soin, de l'aide à domicile. Je peux solliciter Clément sans souci, ça, c'est possible.
Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je parle de prescripteurs parce que c'est souvent les voies par lesquelles nous arrivent les personnes. Cependant, rien ne nous empêche d'être contacté par quelqu'un qui souhaite juste avoir des renseignements ou qui se dit, bah, tiens, là, il y a quelque chose à aller creuser. Et en effet, il n'y a pas de voie formelle pour rentrer en contact avec nous. Je dirais que quelqu'un qui tombe sur mon numéro de téléphone ou mon adresse mail peut me contacter, bien au contraire.
Okay. Et c'est la même chose pour un employeur potentiel.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'un employeur qui se dit, bah, tiens, bah, moi, je recherche quelqu'un à former, un contrat en alternance, par exemple. Bah, tiens, je vais contacter le GEC en retraite 58 pour avoir plus d'infos, par
exemple.
C'est
ça. C'est-à-dire que... Pour que ce soit clair pour tout le monde, nous, on est porteurs du contrat de travail, hein, c'est-à-dire qu'on porte l'emploi. Demain, il y a une association qui me sollicite et pour lequel, dans un monde idéal, j'ai tout de suite un profil à faire matcher. Moi, je porte le contrat de travail, c'est-à-dire que le contrat de travail est rédigé entre la personne que j'embauche et le GEC en retraite 58. Et après, on fait ce qu'on appelle de la mise à disposition. C'est-à-dire que, derrière, on soulage les structures de tout ce qui est gestion des ressources humaines et de tout l'administratif, rédaction du contrat de travail, des bulletins de salaire,
ça,
de la médecine
du
travail. S'il y a des arrêts maladie, des accidents du travail, c'est tout nous qui gérons. Ce qui fait que pour des petites structures, comme c'est le cas notamment sur l'aide à domicile, ça soulage énormément les personnes qui peuvent éventuellement des fois être des personnes qui ont monté leur association d'aide à domicile, mais qui n'ont pas forcément pu embaucher des gens pour traiter tout ce qui était ressources humaines et administratives et qui le font eux-mêmes, et bien là, pour le coup, c'est nous qui nous suppléons à tout ça. Et puis, on a aussi cette capacité à pouvoir, j'allais dire, porter, entre guillemets, sur un plateau à des associations déjà 2-3 profils qu'on aurait, nous, présélectionnés. C'est-à-dire qu'on va écumer un peu les profils qui nous sont amenés, mais on va pouvoir porter à quelqu'un qui va nous dire, bah voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un sur tel secteur, avec tel profil. Et nous, derrière, on arrive un peu, entre guillemets, avec une solution clé en main pour l'association, quoi.
Ok, très bien. Et une structure qui souhaiterait pouvoir bénéficier de vos services, ça lui coûte quelque chose ?
Alors, évidemment, à ce jour, nous, notre modèle économique, il est basé sur ce qu'on appelle de la mise à disposition, c'est-à-dire que demain, la personne qui est embauchée, avec qui je signe un contrat de travail, je la mets à disposition avec un prix à l'heure. Après, ça, évidemment, on en échangera en antenne, mais le prix à l'heure, il est donné et la personne, elle coûte quelque chose qu'à partir du moment où elle est dans la structure utilisatrice.
Ok, d'accord.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est en vacances, à partir du moment où elle est en formation ou quoi bien même elle serait en arrêt maladie, elle ne coûte rien à la personne. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est des soucis en moins.
Voilà. D'accord. Ok, alors déjà, le GEC, c'est plus clair. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Toi, Clément, à la base, tu te prédestinais à animer un GEC. Tu t'es dit, moi, je veux me former. Il y a une école des coordinateurs de GEC.
Ça peut être un projet de la monter au long cours. Non, mais il existe des formations en interne qui sont dispensées. Non,
toi, tu as fait d'autres choses avant.
Exactement, tout à fait. Ouais, moi, je suis issu du milieu de l'apprentissage sur un autre secteur d'activité qui était la restauration et la vente.
Donc, l'apprentissage, ça te parle bien là, quand on parle de ça là.
Et moi, j'aime beaucoup la possibilité de pouvoir s'exercer durant ces temps pratiques et théoriques, mais ensuite j'ai fait des bilans de compétences, j'ai un diplôme d'AMP pour les anciens, donc AES maintenant, et de moniteur éducateur, et j'ai exercé dans divers établissements de la Nièvre au cours de ces, on va dire, à peu près 15 dernières années, et j'avais envie de pouvoir accompagner des gens qui souhaitaient se former, et notamment sur des diplômes, on va dire... du moniteur éducateur, mais voilà, en fait, ça me permettait de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur des gens qui souhaitaient se former. Et de, là, la coordination d'un GEC, c'est fait par hasard et par opportunité pour moi, mais en effet, j'en suis très content.
Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Clément.
Merci à vous.
Et puis, est-ce que tu as peut-être un message à passer,
ouais,
une,
bien sûr,
une info à donner?
Les GEC sont parfois confondus. Alors, on m'avait demandé de noter une petite anecdote.
Ah ouais.
Voilà,
ouais.
Je fais court, mais c'est parce que...
Il n'y a pas de problème.
Il y a beaucoup de gens confondent avec les GIEC, qui sont les groupes d'experts pour le climat. Et voilà, un jour en forum, ça m'est arrivé que quelqu'un m'a demandé, mais donc vous êtes l'expert en climat. J'ai dit absolument pas. Moi, c'est plutôt l'emploi et le médico-social. Mais voilà, donc à ne pas confondre les GIEC et les GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Voilà.
Ok, très bien. Juste une dernière petite chose. Si on veut te contacter, il y a un site internet, y a...
Alors, j'ai encore pas de site internet parce qu'on le déploie tout doucement. Mais en tout cas, il y a une page Facebook, GEC en traite 58. Et évidemment, mon numéro de téléphone, je ne sais pas si je peux le donner à l'antenne.
Oui, bien sûr.
Le 06 87 66 93 02. Pour toute information, que vous soyez une association et ou éventuellement une personne qui souhaite des renseignements sur l'accompagnement des métiers du médico-social.
Un grand merci Clément d'avoir répondu à notre invitation.
Et je crois que la Fabrique a fait plusieurs articles sur le GEC en traite 58, notamment à sa création, et je pense qu'en tapant GEC en traite ou même
fait,
GEC sur lafabriqueemploi.fr, vous allez trouver les coordonnées de Benoît et peut-être les tiennes aussi, Clément.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Merci à tous. Eh bien, nous terminons cette émission. Antoine, tu es toujours là ou tu as raccroché?
Tout à fait, je suis encore là.
Ah, d'accord, tu es
c'est très intéressant.
Tu es persévérant. Eh bien, en tout cas, merci à vous et puis rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.